4. Il s'agissait d'une assiette que tant d'états que Mia auraient reconnue, une assiette bleue avec de délicats entrelacs, une assiette pour les grandes occasions. Roland ne tarda pas à identifier le dessin sur l'assiette. De l'oritza, des petites pousses de riz. Quand Cy Eisenhart fit teinter le plat du doigt, il produisit un son clair, on aurait dit de la porcelaine. Pourtant, ça n'en était pas. Du verre, peut-être? Une sorte de verre? Il tendit la main avec la contenance grave et solennelle de celui qui connaît et respecte les armes. Elle hésita, se mordant le coin de la lèvre. Roland porta la main à son étui, qu'il avait remis en place avant le déjeuner près de l'église, et en sortit son revolver. Il le lui tendit, crosse vers elle. « Non pas, » dit-elle après un long soupir. « Vous n'avez pas à m'offrir votre pistolet en otage, Brandt. J'imagine que, si Vaughan vous fait assez confiance pour vous recevoir chez nous, je peux bien vous confier mon oritza. Mais faites attention où vous mettez les doigts, parce que vous risqueriez d'en perdre un autre. Et je ne pense pas que vous puissiez réellement vous le permettre, car je vois qu'il vous en manque déjà deux à la main droite. » Il suffit à Roland d'un regard sur l'assiette bleue, sur l'oritza de la saille, pour juger combien cet avertissement était sage. En même temps, Roland ressentit comme une vive étincelle d'excitation et d'appréciation. Il y avait des années qu'il n'avait pas vu une arme de choix, et jamais il n'avait posé les yeux sur quelque chose de semblable. L'assiette n'était pas en verre, mais en métal, un alliage léger et résistant. Elle avait la taille d'une assiette classique, un peu plus d'une trentaine de centimètres de diamètre. Les trois quarts du rebord étaient à vif d'un tranchant meurtrier.
« On n'a pas à se demander où l'attraper, même si on est pressé, » dit Margaret. « Je ne sais pas si vous voyez... »«
Oui, » répondit Roland, béat d'admiration. Deux des pousses de riz se croisaient en formant ce qui pouvait être les deux grandes lettres « Z-N », ce qui signifiait en soi à la fois « Z-I »,« Zi », l'éternité, et « Non », comme dans « Maintenant ». Au point d'intersection des deux brins, seul un œil entraîné était en mesure de les distinguer du reste du motif, le bord de l'assiette était non seulement lisse, mais légèrement plus épais, idéal pour la prise en main. Roland retourna le plat. Dessous, au centre, saillait une petite cosse de métal. Jake aurait sans doute dit que ça lui rappelait le taille-crayon en plastique qu'il baladait toujours dans sa poche en primaire. Pour Roland, qui n'avait jamais vu un taille-crayon de sa vie, on aurait plutôt dit un cocon d'insectes vide.
C'est ce qui produit le sifflement quand l'assiette est en vol. Vous intuitez, dit-elle.
Elle avait remarqué l'admiration sincère de Roland, et elle ne pouvait s'empêcher de réagir par le rosissement de ses joues et le brillant de ses yeux. Roland avait maintes fois entendu ce genre d'explication empressée, mais plus depuis longtemps.
Ça n'a pas d'autre fonction ?
Non. Mais il faut que ça siffle, ça fait partie de l'histoire, non ?
Roland hocha la tête. Bien sûr que oui.
Les sœurs d'Oritza, lui apprit Margaret Eisenhart, étaient un groupe de femmes qui aimaient aider les autres.
Et faire des ragoûts entre elles, grogna Eisenhart, mais avec une pointe de bonne humeur.
Elles s'occupaient des repas de fête et de deuil, c'étaient les sœurs qui avaient préparé le banquet de la veille au pavillon. Parfois, elles organisaient des cercles de couture et des réunions de tapisserie quand une famille avait perdu ses biens dans un incendie ou quand une crue du fleuve venait inonder les petits propriétaires proches de la berge tous les 6 ou 8 ans. C'étaient les sœurs qui entretenaient le pavillon et la salle du conseil, à l'intérieur et à l'extérieur. Elles organisaient des bals pour les jeunes et faisaient les chaperons. Les plus riches louaient parfois leurs services.
« Les touques ou des gens de ce genre, vous intuitez, dit-elle,
pour s'occuper de buffets de mariage.
Et ce genre d'occasion alimentait les potins de la cala pendant des mois, pour sûr. Entre elles, elles aimaient effectivement les ragots. Si fait, elles n'avaient jamais dit le contraire. Elles jouaient aussi aux cartes, aux points et aux castels. « Et c'est vous qui lancez l'assiette, » suggéra Roland.
« Si fait, mais il faut bien que vous compreniez que c'est juste pour s'amuser. La chasse, c'est l'affaire des hommes, et ils s'en sortent très bien avec le bât. »
Elle se mit à caresser l'épaule de son mari, mais un peu nerveusement, remarqua Roland. Il se dit aussi que si les hommes s'en sortaient si bien avec le bât, elle n'aurait pas eu l'idée de cacher cette charmante chose meurtrière sous son tablier. Et Eisenhart ne l'y aurait pas encouragé. Roland ouvrit sa blague à tabac et en sortit une des presses de maïs de Rosalita et l'approcha du bord tranchant de l'assiette. La feuille s'envola immédiatement, coupée proprement en deux.
« Juste pour s'amuser, » se dit Roland, et il faillit sourire.
« Quel est ce métal ? » demanda-t-il. « Tu le sais ?» Elle haussa légèrement les sourcils devant la familiarité de la question du pistolero, mais ne fit aucun commentaire.
« Andy l'appelle du titane. Il vient d'une usine très ancienne à l'extrême nord, à Kalasenchre. C'est une ruine là-bas. J'y suis jamais allé, mais on m'a raconté. Ça t'a donné la chair de poule. »
Roland acquiesça. « Et ces plats, comment les fait-on ? C'est Andy ?»
Elle fit non de la tête.
« Il ne peut pas, ou il ne veut pas, je ne sais pas. Ce sont les dames de Kalasenchre qui les font et qui les distribuent aux calas environnantes, bien que je ne crois pas qu'elles aillent au-delà de Divine, au sud.
« Ce sont les dames qui les font, » répéta Roland d'un air songeur. « Les dames. »
Quelque part, il reste une machine qui les fabrique, c'est tout, lâcha Eisenhart, visiblement sur la défensive, ce qui amusa Roland. Rien à faire à part pousser un bouton, et le tour est joué, j'imagine.
Margaret le regarda avec un sourire de femme sur les lèvres et ne répondit rien. Peut-être ne savait-elle pas ce qu'il en était, mais elle savait quelle politique observer pour préserver la paix du ménage. Ainsi, il y a des sœurs au nord et au sud, le long de l'arc, et elles lancent toute l'assiette.
Si fait, de Kalasenchre à Kaladivine au sud. Plus loin, au nord et au sud, je ne peux pas vous dire. Nous aimons nous entraider et discuter. Une fois par mois, nous lançons l'assiette en mémoire de Dame Ritsa et de son exploit contre Grédic, mais peu d'entre nous sont vraiment doués.
« Et vous ? Vous êtes doué, Sae ?» Elle garda le silence, se mordant à nouveau la lèvre. « Montre-lui, » grogna Eisenhart, « qu'on en finisse. »
5.
Ils descendirent les marches en file indienne derrière la femme du rancher, Roland en dernier. Derrière eux, la porte de la cuisine s'ouvrit et claqua.
« Par mille dieux, Madame Eisenhart va lancer l'assiette !» cria Bennis Lightman aux anges. « Jake, tu vas pas en croire tes yeux !»«
Renvoie-les à l'intérieur, Vaughn, » dit-elle. « C'est pas un spectacle pour eux. »«
Non pas, qu'ils regardent !» répondit Eisenhart. « Ça peut pas faire de mal à un garçon de voir une femme qui se débrouille bien. »«
Roland, dis-leur de partir, si fait. »
Elle lui adressa un regard suppliant. Elle avait les joues roses, elle était visiblement troublée et tout à fait ravissante. Roland se dit qu'elle paraissait 10 ans de moins que lorsqu'il l'avait vue dans la galerie, mais il se demanda comment elle pourrait tirer dans un état pareil. Il voulait absolument voir ça parce que tendre une embuscade signifiait faire face à une situation brutale, précipitée et éprouvante pour les nerfs.
« Je suis d'accord avec votre mari, je les laisserai rester. »
Comme vous voudrez.
Roland constata qu'en fait, elle était satisfaite. Elle voulait un public. ce qui ne fit qu'accroître ses espoirs. Il lui paraissait de plus en plus évident que cette petite femme d'âge moyen, avec ses petits seins et ses cheveux poivre et sel, avait un vrai cœur de chasseur. Pas un cœur de pistolero, mais au point où ils en étaient, il se serait contenté de quelques chasseurs, de quelques tueurs, hommes ou femmes. Elle avança vers la grange d'un pas décidé. Quand ils se trouvèrent à une quarantaine de mètres des pantins qui encadraient la porte de la grange, Roland lui toucha l'épaule et la fit s'arrêter. « Non pas, on est trop loin. »« Je t'ai déjà vu tirer sur deux fois cette distance, » glissa son mari, tenant bon sous le regard furieux de Margaret. « C'est vrai. »
Pas avec un pistolero de la lignée d'elle de juste à côté. « Ça, non !» dit-elle.
Mais sans bouger de là où elle était. Roland se rendit à la porte de la grange et retira la tête souriante en vivrave du pantin de gauche. Il rentra dans la grange. Une des stalles était remplie de vivraves fraîchement cueillies et celle d'à côté de pommes de terre. Il prit une pomme de terre et la posa sur les épaules du pantin décapité à la place de la vivrave. C'était une grosse patate, pourtant le contraste était comique. Le pantin ressemblait à présent à Monsieur Tête d'Épingle dans un défilé de fêtes foraines.
« Oh, Roland, non !» gémit-elle, l'air réellement choqué. « Je ne pourrai jamais !»«
Je ne vous crois pas !» dit-il en s'écartant. « Lancez, maintenant !» L'espace d'une seconde, il crut qu'elle n'oserait pas. Elle chercha son mari du regard. Si Eisenhart s'était tenu à côté d'elle, se dit Roland, elle lui aurait fourré l'assiette entre les mains, sans se soucier qu'il se coupe, elle serait retournée à la maison en courant. Mais Von Eisenhart s'était réfugié au pied des marches. Les garçons se tenaient au-dessus de lui, Benny Slightman regardant la scène avec intérêt, Jake avec une attention soutenue, les sourcils froncés. Il ne souriait plus.
« Roland, je... rien du tout, madame, je vous prie.
Votre discours sur le saut dans le vide était très convaincant, mais maintenant, je veux vous voir le faire. Lancez. » Elle eut un mouvement de recul. Ses yeux s'élargirent comme si on l'avait giflé. Puis elle se tourna vers la porte de la grange et porta la main droite au-dessus de son épaule gauche. L'assiette brillait dans la lumière du soir qui avait tourné du rouge au rose. Elle serrait les lèvres qui ne formaient plus qu'une fine ligne blanche. Pendant un instant, le monde entier resta en suspens.
« Richard !»
cria-t-elle d'une voix suraiguë et furieuse en projetant le bras en avant. Elle ouvrit la main et pointa l'index dans la direction exacte que prendrait l'assiette. De tous ceux présents dans la cour, les cow-boys s'étaient eux aussi arrêtés pour regarder. Seul Roland avait le regard assez vif pour suivre le vol du plat.
« Parfait !» exulta-t-il. « Parfait ! Plus que jamais !»
L'assiette émit une sorte de mugissement plaintif en survolant la cour sale. Moins de 2 secondes après l'envol de l'assiette, la pomme de terre se retrouva coupée en deux, une moitié dans la main droite gantée du pantin, l'autre dans la gauche. L'assiette elle-même s'était plantée dans le mur de la grange et vacillait légèrement. Les garçons lancèrent un hurrah. Benny leva la main comme lui avait appris son nouvel ami, et Jake toba.
« Bien joué, Cy Eisenhart !»
hurla Jake.
« Bon coup, grand merci !»
ajouta Benny. Roland observa la femme et la vit découvrir les dents en entendant ce compliment malheureux et bien intentionné. On aurait dit un cheval qui aurait vu un serpent. Les garçons, je rentrerai si j'étais vous, dit-il. Maintenant. Benny était perplexe. Jake, en revanche, jeta un regard en direction de Margaret Eisenhart et il comprit. Quand il faut y aller, et il ne tarda pas à réagir.
« Viens, Ben, » dit-il. « Mais viens, je te dis. »
Jake attrapa son nouvel ami par un pan de sa chemise et l'entraîna vers la porte de la cuisine. Tout d'abord, Roland laissa la femme là où elle était, la tête baissée, tremblante. Elle avait encore le rouge aux joues, mais le reste de son visage était devenu blanc comme du lait. Il eut l'impression qu'elle luttait pour ne pas vomir. Il se dirigea vers la porte de la grange, saisit l'assiette par le bord lisse et tira. Il fut effaré de constater l'effort qu'il lui fallut pour déloger l'assiette. Elle joua de haut en bas, puis céda. Il la rapporta et la lui tendit. Ton instrument. Pendant quelques secondes, elle se contenta de contempler Roland avec un éclat de haine dans le regard, sans reprendre l'assiette.
Pourquoi vous moquez-vous de moi, Roland ? Comment savez-vous que Vaughn est venu me chercher dans le clan Manny ? Dites-le nous, je vous prie.
C'était la rose, bien sûr. Une intuition que lui avait laissé le contact de la rose. Mais c'était aussi l'histoire racontée par son visage, comme une version féminine de celui du vieux Enchik. Mais comment il savait ce qu'il savait ? Ce n'était pas les affaires de cette femme, et il secoua la tête.
Non pas. Mais je ne me moque pas de toi.
Margaret Eisenhart saisit brusquement Roland par le cou. Elle avait la main sèche et si chaude qu'on l'aurait cru frappée par la fièvre. Elle attira l'oreille de Roland vers sa bouche tremblante. Il eut l'impression d'y sentir tous les cauchemars qu'elle avait faits depuis qu'elle avait décidé de quitter son peuple pour le gros rancher de Calabrian Sturges.
« Je t'ai vu parler à Enchik hier soir, » dit-elle. « Vas-tu lui reparler ?»«
Oui, n'est-ce pas ?»
Roland hocha la tête, immobilisé par sa prise, par la force de sa poigne, par les petites bouffées d'air près de son oreille. Est-ce qu'un malade mental se cachait vraiment à l'intérieur de tout le monde, même d'une femme telle que celle-là ? Il ne savait pas.
Bien. Grand merci. Alors, dites-lui que Margaret, du clan du Sentier Rouge, se débrouille très bien avec son homme impie. Elle resserra son emprise. Dites-lui qu'elle ne regrette rien. Vous ferez ça pour moi ?
Roland acquiesça. Si fait, madame, si vous le souhaitez. Elle lui arracha l'assiette des mains sans se soucier du bord fatal. Tenir l'objet parut l'apaiser. Elle fixa sur Roland un regard dans lequel montaient les larmes sans couler.
C'est de la grotte que vous avez parlé avec mon père ? De la grotte de la porte ?
Roland fit oui de la tête.
Quelle punition nous réserves-tu, homme d'armes avisé ?
Eisenhart les rejoignit. Il jeta un regard incertain en direction de sa femme, qui pour lui avait connu l'exil. Pendant un instant, elle le fixa comme si elle ne le reconnaissait pas.
Je ne fais qu'agir selon la volonté du cas, répondit Roland. Le cas !
S'écria-t-elle, et sa lèvre se retroussa. Un rictus tordit ses beaux traits, leur imprimant une laideur presque effrayante. Qui aurait effrayé les garçons, en tout cas.
L'excuse rêvée pour tous les fauteurs de troubles ! Vous pouvez vous la fourrer où je pense !
J'agis selon la volonté du cas et vous ferez de même, répondit Roland. Elle posa les yeux sur lui, semblant ne pas comprendre. Roland prit la main chaude qui lui tenait le cou dans la sienne et la serra, mais pas au point de lui faire mal. « Et vous ferez de même. » Elle soutint son regard pendant un moment, puis baissa les yeux.
« Si fait, murmura-t-elle. Oh, si fait, nous ferons tous de même. »
Elle se risqua à relever les yeux.
« Vous transmettrez mon message à Enchik ?
Si fait, madame, comme je vous l'ai dit. Hormis le cri lointain d'un rouillot, la cour assombrie était silencieuse. Les cow-boys se tenaient toujours appuyés contre la barrière de la Rimouda. Roland s'approcha d'eux, d'un pas tranquille.
Soir, messieurs.
Grand bien à vous, lui lança l'un d'eux en se touchant le front.
Et plus grand à vous encore, répondit Roland. La dame a lancé l'assiette, elle l'a bien lancée, si fait.
Grand merci, acquiesça un autre. La dame s'est pas rouillée.
En effet, dit Roland.
Et puis-je vous dire une chose maintenant, messieurs? Un mot à vous mettre sous le chapeau, comme on dit.
Ils lui adressèrent un regard méfiant. Roland leva les yeux vers le ciel et sourit. Puis il se concentra à nouveau sur eux.
J'en jurerai, par ma montre et par mon billet. Vous aurez envie d'en parler, de dire ce que vous avez vu.
Ils le considérèrent prudemment, réticents à admettre qu'il disait vrai.
Parlez-en, et je vous tuerai tous, un par un, dit Roland. Vous m'avez bien compris.
Eisenhart lui toucha l'épaule.
Roland, vous ne d'un coup d'épaule, le pistolero se dégagea sans regarder l'homme. Vous m'avez compris?
Ils hochèrent la tête.
Et vous me croyez?
Ils acquiescèrent de nouveau. Ils avaient l'air d'avoir peur. Roland le constata avec plaisir. Ils avaient raison d'avoir peur.
Grand merci. Grand merci, sûr, répéta l'un d'entre eux, un voile de sueur sur le front.
J'y fais, fit le deuxième.
Grand merci, beaucoup, beaucoup, conclut le troisième en crachant nerveusement un jet de jus de tabac sur le côté.
Eisenhart fit une nouvelle tentative.
Roland, entendez-moi, je vous prie, mais Roland n'en fit rien. Son esprit bouillonnait d'idées. Tout à coup, la solution lui apparut avec une limpidité parfaite. La solution de ce côté, du moins.
Où est le robot? Demanda-t-il au rancher.
Andy? Il est rentré à la cuisine avec les garçons, il me semble.
Bien. Vous avez un bureau de compte ici? Fit-il avec un signe de tête en direction de la grange.
Si fait.
Allons-y alors. Vous, moi et votre femme.
Je voudrais d'abord l'emmener un peu à l'intérieur, répondit Eisenhart.
L'emmener n'importe où, loin de vous, lut Roland dans ses yeux.
Notre palabre ne sera pas longue, dit Roland avec une parfaite franchise. Il avait déjà vu tout ce qu'il avait besoin de voir.
6. Le bureau des comptes ne comportait qu'une seule chaise, celle derrière la table. Margaret s'y assit. Eisenhart prit un tabouret. Roland s'accroupit sur ses talons, dos au mur, son sac ouvert devant lui. Il leur avait montré la carte des jumeaux. Eisenhart n'avait pas compris tout de suite ce que Roland avait dans la tête. Peut-être même ne le comprenait-il toujours pas. Mais la femme, si. Roland ne s'étonnait pas qu'elle eût été incapable de rester avec Limani. Limani était pacifique. Margaret Eisenhart, non. Pas dès qu'on avait gratté la surface, en tout cas.
« Il faudra garder ça pour vous, » dit-il.
« Ou bien tu nous tueras, comme nos cow-boys ? » demanda-t-elle. Roland lui adressa un regard patient qui la fit rougir.
« Pardon, Roland, je suis contrarié. C'est le fait d'avoir lancé l'assiette sur un coup de sang. »
Eisenhart lui passa le bras autour des épaules. Cette fois-ci, elle accepta le geste de bonne grâce et posa la tête sur son épaule.
« Qui d'autre dans votre groupe peut lancer aussi bien que ça ?» demanda Roland. « Y a-t-il quelqu'un ?»«
Zalia Jaffords, » répondit-elle immédiatement.
« Vous êtes sérieuse ?»
Elle acquiesça vivement.
Zalia aurait pu découper cette patate en deux et de 20 pas plus loin.
« Y en a d'autres ? »
Sarah Adams, épouse de Diego, et Rosalita Munoz.
Roland haussa les sourcils en entendant le dernier nom.
« Si fait !» confirma Margaret. « Avec Zalia, c'est Rosie la meilleure. » Elle marqua une courte pause.
« Et moi, je suppose ?» Roland ressentit comme un énorme poids lui tomber des épaules. Il était convaincu qu'il serait contraint de rapporter des armes de New York ou de la rive est du fleuve. Il lui semblait à présent que ce ne serait peut-être pas nécessaire. Très bien. Ils avaient d'autres choses à faire à New York, des choses concernant Calvin Tower. Ils ne voulaient pas avoir à mélanger les deux, sauf cas de nécessité absolue. Je voudrais vous voir toutes les quatre au presbytère du vieux. Et rien que vous quatre. Il adressa un regard furtif à Eisenhart, puis revint sur sa saille. Sans vos maris.
Hé, attendez une seconde, vous, fit Eisenhart.
Roland leva la main.
On n'a encore rien décidé.
Ce que je n'aime pas, c'est la façon dont on n'a encore rien décidé, précisa Eisenhart.
Tais-toi une minute, l'interrompit Margaret.
Quand voulez-vous nous voir ?
Roland se livra à un calcul rapide. Il restait 23 jours, peut-être 22, et beaucoup à voir encore. Et puis, il y avait cette chose cachée dans l'église du vieux et dont il fallait aussi s'occuper. Et ce vieux Manny, Henschick.
Pourtant, il savait que pour finir, le jour viendrait et les choses se précipiteraient avec une soudaineté éprouvante. C'était toujours comme ça. 5 minutes, 10 au plus, et tout serait terminé pour le meilleur et pour le pire. Le truc, c'était d'être prêt quand viendraient ces quelques minutes.
Dans 10 jours, le soir, vous vous mesurerez les unes aux autres à tour de rôle.
D'accord, dit-elle. C'est le moins qu'on puisse faire.
Mais, Roland, je ne lancerai pas une seule assiette et je ne lèverai pas le petit doigt contre les loups si mon mari continue à dire non.
Je comprends, répondit Roland, sachant qu'elle se tiendrait à ce qu'elle disait, que ça lui plaise ou non. Le moment venu, c'est ce qu'ils feraient tous. Il y avait une petite fenêtre dans le mur du bureau, toute sale et ornée de toiles d'araignée, mais encore assez transparente pour laisser voir la silhouette d'Andy, qui traversait la cour, ses yeux électriques lançant des éclairs dans le crépuscule croissant. Il chantonnait pour lui-même.
« Selon Eddie, les robots sont programmés pour effectuer des tâches précises, » dit Roland.
« Andy effectue les tâches que vous lui demandez ?»«
Pour la plupart, oui, » répondit Eisenhart. « Pas toujours, et on ne l'a pas toujours sous la main, vous l'intuitez. »
Difficile de croire qu'il ait été construit dans le seul but de chanter ses chansons idiotes et de réciter des horoscopes, fit Roland d'un air pensif.
« Peut-être que les anciens lui ont donné des passe-temps, » dit Margaret Eisenhart. « Et maintenant que ses tâches principales sont perdues dans le temps, vous intuitez, il se concentre sur ses passe-temps. »
Vous pensez que ce sont les grands anciens qui l'ont construit ?
Qui d'autre ? Demanda Von Eisenhart.
Andy avait disparu et la cour était à nouveau vide.
Si fait, qui d'autre ? Répéta Roland, toujours pensif. Qui d'autre posséderait à la fois le savoir-faire et les outils ?
Mais les grands anciens avaient disparu 2000 ans avant la première visite des loups à la Cala. 2000 ans au moins. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est qui ou quoi a programmé Andy pour qu'il ne parle pas d'eux, sauf pour vous informer, vous autres, qu'ils arrivent.
Et j'ai une autre question, moins intéressante peut-être, mais tout aussi pressante. Pourquoi vous donne-t-il cette nouvelle s'il ne peut pas ou ne veut pas vous dire autre chose ?
Eisenhart et sa femme se regardaient effarés. Il n'était pas allé plus loin que la première partie de ce que Roland avait dit. Le pistolero n'en fut pas surpris, mais il se sentit un peu déçu par eux.
Vraiment, c'était l'évidence même, si on y réfléchissait une seconde.
Mais à la décharge des Eisenhart, Jafford et Overholzer de la Cala, il ne devait pas être facile de penser clairement quand vos babés étaient en danger.
On frappa à la porte.
« Entrez !» fit Eisenhart. C'était Ben Sleitman. « Tout le bétail est rentré, patron. » Il retira ses lunettes et les essuya avec un pan de sa chemise. « Et les garçons sont partis avec la tante de Benny. Andy les suivait de près, alors tout va bien. » Sleitman se retourna vers Roland. « Il est un peu tôt pour les chats des roches, mais s'il devait s'en montrer un, Andy laisserait mon fils lui tirer dessus au moins une fois avec son bas. Il est programmé pour ça, et il revient en disant « Ordre enregistré ». Et si Benny devait le rater, Andy s'interposerait entre les garçons et le félin. Il est programmé strictement pour la défense. On n'a jamais pu effacer ça. Mais si la bête devait revenir à la charge, Andy le réduirait en morceaux, compléta Eisenhart. Il s'exprimait avec une sorte de satisfaction morbide. « Il est rapide, non ?»« Mon salaud !» fit Sleitman. « Il n'en a pas l'air comme ça avec son allure de grande perche. » Mais si fait, il peut se montrer rapide comme l'éclair quand il veut. Plus rapide que n'importe quel chat des roches. On pense qu'il marche sur énergie fantomatique. C'est très probable, répondit distraitement Roland. Peu importe, fit Eisenhart. Mais écoute, Ben. D'après toi, pourquoi Andy ne veut pas parler des loups? Il est programmé. D'accord. « D'accord, mais comme nous l'a fait remarquer Roland juste avant que tu arrives, et on aurait dû y penser par nous-mêmes depuis longtemps, si ce sont bien les grands anciens qui l'ont mis en route, sachant que les anciens sont morts ou qu'ils ont disparu bien longtemps avant que les loups se montrent, tu vois le problème. » Sleitman l'aîné hocha la tête puis remit ses lunettes. « Il devait y avoir quelque chose de ressemblant dans les temps reculés, non? Qui ressemble assez aux loups pour qu'Andy se trompe ?» « Je vois que ça !»« Vraiment ?» se demanda Roland. Il sortit la carte des jumeaux Tevery, l'ouvrit, et leur désigna un arroyo dans la zone des collines au nord de la ville. Il s'enfonçait en serpentant dans ces collines jusqu'à l'une des anciennes mines de grenat de la Cala. Celle-là consistait en un bras de forage s'enfonçant à une dizaine de mètres de profondeur à flanc de colline, et c'était tout. Rien à voir, ou presque, avec Veru Canyon à Mégis. Il n'y avait pas de tramé dans l'arroyo pour commencer. Si ce n'est cette ressemblance cruciale, dans les deux cas, il s'agissait d'un cul-de-sac. Et Roland savait qu'un homme avait tendance à avoir de nouveaux recours à ce qui avait déjà marché une fois. Le fait de choisir cet arroyo, cette mine en cul-de-sac pour monter une embuscade contre les loups, paraissait parfaitement logique. Aux yeux d'Eddie, de Susanna, de Eisenhart et maintenant du contremaître de ce dernier. Ça paraîtrait tout aussi logique à Sarah Adams et à Roselita Munoz. Et au vieux. Il dévoilerait au moins cette partie de son plan aux autres, et eux aussi trouveraient ça logique. Et s'il omettait des détails? Si certaines de ses paroles n'étaient que mensonges? Et si les loups avaient vent de ces mensonges et qu'ils les croyaient? Voilà qui serait une bonne chose, n'est-ce pas? S'il fonçait droit dans la bonne direction, mais en se trompant de cible. Oui, mais il faudrait que je fasse confiance à quelqu'un et que je lui révèle toute la vérité. Mais qui? Pas Susanna, car Susanna était à nouveau deux et il ne faisait pas confiance à l'autre. Pas Eddie, car Eddie pourrait révéler malgré lui un détail crucial à Susanna, et alors Mia serait au courant. Pas Jake, car Jake était devenu le meilleur ami de Benny Sleitman. Il se retrouvait de nouveau seul, et jamais la solitude ne lui avait pesé autant. « Écoutez, dit-il, en tapotant sur la carte l'emplacement de l'arroyo. Voici un endroit qui pourrait convenir, Sleitman. Facile d'y entrer, plus difficile d'en sortir. Supposez qu'on y emmène tous les enfants d'un certain âge et qu'on les laisse en sûreté dans cette petite mine. » Il vit passer dans les yeux de Sleitman un éclair de compréhension. Et autre chose aussi, de l'espoir, peut-être. Quand on cache les enfants, ils savent où. C'est comme si ils les sentaient, comme les ogres dans les contes pour enfants. C'est ce que j'ai cru comprendre, répondit Roland. Je suggère justement que l'on pourrait se servir de ça. Faire d'eux un appât, vous voulez dire? Pistolero. C'est dur comme proposition. » Roland, qui n'avait aucune intention de placer les enfants dans la cala, dans cette mine de grenats abandonnée, ni même à proximité, hocha la tête. « Il faut parfois faire des choix difficiles, Eisenhart. »« Grand merci, » répondit Eisenhart, mais son expression était maussade. Il toucha la carte du doigt. « Ça pourrait marcher. »« Si fait, ça pourrait marcher. »« Si vous réussissez à y faire entrer tous les loups. » »« Où qu'on cache les enfants, j'aurai besoin d'aide pour les y emmener, » pensa Roland. « Il faudra des gens qui sachent où aller et quoi faire. Un plan. »« Mais pas encore, pour le moment. » Je peux me contenter de jouer ce jeu-là. C'est comme une partie de Castles, parce que l'un d'entre nous se camoufle. Comment le savait-il? Il ne le savait pas. Le sentait-il? Si fait, il le sentait. Maintenant, on était à 23, à 23 jours des loups. Ça suffirait. Il le fallait.